Radio Starberg.
Morning Edition from NPR.
France Inter, le 18-20.
L'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir nous emmène à Mossoul en Irak avec Géraldine Allot qui nous fera comprendre comment on vit là-bas 9 mois après le départ de l'État islamique. Vous verrez que parfois, même si rien n'a été reconstruit dans le centre-ville notamment, les habitants reviennent, mieux vaut ça que les camps tout autour. Sous les radars et Florence Paracolos au Japon avec une histoire de reconstitution absolument terrible. Vous apprendrez aussi qu'Indiana Jones est devenue une femme et je vous conseille cette affaire de Pepperoni, ça se passe au Canada. 18h50, le cinéma en VO, comme tous les mercredis. Corinne Pellissier a vu La mort de Staline, elle a aimé, vous le fera partager. 18h55, Le monde à l'envers de Jean-Marc Four, une affaire de foot et d'élection, le tout en Égypte. Mais d'abord, puisqu'on nous raconte partout que nous sommes les champions du monde de la grève, eh bien, allons voir ça chez les voisins. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Or donc, nous avons une gréviculture. C'est Gabriel Attal qui dit ça, le porte-parole de La République En Marche. Il le disait d'ailleurs cette semaine chez l'ami Nicolas Demorand dans le 7-9 de France Inter. Alors, c'est vrai qu'on arrête le travail avec une certaine facilité en France, ça on ne peut pas le nier, mais pas forcément beaucoup plus que nos voisins. Peut-être d'ailleurs que les rapports à la négociation même sont très différents d'un pays à l'autre. Bonsoir Jean-Marie Pernaud.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, vous êtes chercheur à l'Institut de Recherche Économique et Sociale. Vous avez écrit Syndicat, lendemain de crise, c'est réédité aux éditions Gallimard. D'abord, j'ai une curiosité, comme ça on évacue cette question. Est-ce que le droit de grève existe partout autour de nous? Je dis autour de nous, hein, je ne veux pas vous emmener jusqu'en Corée du Nord. Mais est-ce que partout dans les pays européens, on a un droit de grève qui ressemble au nôtre ou pas?
Alors, qui ressemble au nôtre, c'est une autre histoire. Il y a un pays original, c'est l'Autriche.
Voilà,
il y a pas
c'est
de
pour
droit,
ça que je vous emmène là, en
légal.
Fait. Ouais.
Mais dans la plupart des pays, bien sûr, il y a un droit de grève qui est considéré quand même comme un des éléments fondamentaux des conventions internationales du travail, donc, et qui font partie du socle des droits démocratiques dans les sociétés européennes.
Mais alors du coup, j'ai eu cette curiosité, ça se passe comment en Autriche quand il y a un conflit social ?
Il y en a peu d'abord, et puis ça relève d'une négociation en général. Vous savez, c'est un système extrêmement fermé, ce qu'on appelait le corporatisme. La plupart des relations sociales s'établissent dans les chambres du travail, et au niveau national, il y a une étroite concertation en général entre les pouvoirs publics, les syndicats et les organisations patronales, qui la plupart du temps évitent les conflits. Cela dit, il y en a quand même, et dans ces cas-là, ils sont tranchés par les tribunaux.
Alors, étonnant d'ailleurs. Hein. Alors Jean-Marie Pernaud, on va aller vers ceux qui font grève, ceux qui sont dans la rue. Il y a toujours cette tarte à la crème. Nous ne savons pas négocier, nous, en France. Regardez, par exemple, les Allemands savent le faire. Est-ce qu'on n'est pas en train de véhiculer une sorte de mythe de l'Europe du Nord, en fait, pour ce qui est du rapport à la grève?
Oui, bien sûr. Oh, allez, il y a toute une rhétorique traditionnelle disant que la France est la championne du monde, etc. Et on peut toujours trouver 2-3 chiffres qui peuvent donner cette impression. En longue période, c'est pas vrai. Sur certaines séquences, on se rend compte que la France est plutôt...
Si 132 on compte, jours sur 1000 jours, alors, c'est le dernier
dépend,
calcul.
Voilà, ça dépend des indicateurs qu'on utilise. On peut isoler certaines périodes pour montrer que. Mais si on regarde en longue période, la France, en termes de nombre de jours de grève rapporté à 1000 salariés, qui est un peu l'outil qui permet de faire des comparaisons internationales, on est plutôt dans les tranches basses de la moyenne européenne.
Mais alors du coup, mythe de l'Europe du Nord, ça veut dire quoi? Parce qu'on fait grève finalement quasiment autant que nous en Europe du Nord, c'est
oui,
ça que ça
plus,
veut dire
parfois
même
plus. Parfois plus. J'ai souvenir d'un rapport sénatorial sur la grève, sur le service minimum, où les données de grève montraient que entre 2004 et 2012, le pays qui sortait en tête, c'était le Danemark.
Il y a
des grandes phases de grève aussi dans ces pays-là. Le problème, c'est extrêmement difficile d'avoir un regard comparatif sur ces questions, parce que la grève occupe une place différente dans chaque pays, à la fois dans la législation. Il y a des pays où le droit de grève est extrêmement restreint. On le sait peu, d'ailleurs, en France, mais le droit de grève est vraiment extrêmement contraint, et les évolutions sur 20
ans...
Par exemple, en Allemagne, par exemple, alors, on ne parle même pas du Royaume-Uni, où
faire
grève
aussi,
relève de l'héroïsme individuel et collectif. Les Pays-Bas, qui se font régulièrement toquer aussi par le Conseil de l'Europe et le comité de suivi des droits sociaux du Conseil de l'Europe. Donc il y a énormément de restrictions aux droits de grève dans les différents pays. Il faut reconnaître sur ce plan que la France, comme l'Italie, ont un droit de grève assez libéral au sens politique du terme.
Et peut-être que c'est qu'il n'y a pas le même rapport de force, en fait. Les choses ne se passent pas dans le même ordre. Je pense par exemple à l'Allemagne que vous citiez à l'instant. Bien sûr qu'il y a des négociations en amont, mais une fois que les syndicats sont dehors, on l'a vu récemment avec IG Metall, ils sont vraiment dehors. Et pour le coup, là, ils obtiennent des choses vraisemblablement. Il y a une efficacité, on va dire, qui est assez remarquable, en tout cas pour cet exemple-là.
C'est vrai. Le problème de l'Allemagne, c'est qu'il faut regarder, il y a différents mondes sociaux en Allemagne. Mmh. Hein, et que ce à quoi vous faites allusion, c'est la tradition de la Fédération de la Métallurgie, bien rodée, mais qui ressemble, qui correspond quand même à 15% du salariat en Allemagne. Plus globalement, dans l'industrie, il y a des procédures extrêmement rodées. Mmh. Il y a des grèves assez peu souvent, mais les syndicats doivent en permanence montrer qu'ils sont capables de la faire. Et c'est ça qui leur sert dans la négociation. C'est pour ça que la grève n'est pas toujours présente, effectivement, mais elle est toujours présente dans la relation sociale. C'est-à-dire que c'est la possibilité qu'ont les syndicats de la faire qui permet d'éviter d'avoir à démontrer en permanence qu'on en est capable.
Mais est-ce que ça veut dire que du coup, chez nous, historiquement, il y a une raison pour laquelle le rapport social commence par la grève et se termine à la négociation, quand chez nos voisins, effectivement, on est dans le raisonnement inverse, en quelque sorte?
Alors, après, le raisonnement inverse, oui, mais là, c'est l'histoire du pays. Si vous voulez, en 47-49, quand on reconstitue l'Allemagne fédérale, on met au cœur de la Constitution la question de la paix sociale. Et toutes les institutions de la négociation collective doivent être tournées vers la paix sociale. Et c'est une notion qui a cours dans ces pays-là, d'ailleurs comme dans tous les pays protestants d'Europe du Nord, hein, l'impératif de paix sociale est premier. Mmh. Et donc, tous les droits de la négociation collective et la grève découlent de cela. C'est-à-dire, ça tend vers ce que les Chinois appellent l'harmonie sociale. Mmh. On essaie d'éviter au maximum le conflit. On n'a pas ce type de réglementation en France, d'autant que la négociation collective chez nous arrive très très tard, beaucoup plus tard que dans les pays voisins.
Nos deux histoires parlent différemment. Vous parliez du Danemark tout à l'heure, Jean-Marie Pernaud. Je voudrais qu'on y aille. Bonsoir Anne-Françoise Hivert.
Bonsoir Fabienne.
70% de syndiqués chez vous au Danemark, dont on parlait à l'instant. Et tiens, précisément, on parlait de ce fameux modèle de l'Europe du Nord qui est sûrement contrefait, en tout cas par nous. La grève menace la paralysie même, puisqu'il y a des négociations, des conventions collectives en ce moment même dans les services publics qui vraisemblablement ne se passent pas très bien.
C'est bien cela, Fabienne, et autant dire que la situation est de plus en plus tendue. Les négociations se sont prolongées pendant le week-end de Pâques et elles n'ont toujours pas abouti, alors que les conventions collectives adoptées il y a 3 ans ne sont plus valables depuis le 1er avril. Rappelons-le, au Danemark, le droit social ne découle pas de la loi, mais des accords renégociés régulièrement par les partenaires sociaux. Parmi les points de friction cette année, les exigences salariales des fonctionnaires qui réclament un alignement sur les revenus du privé, soit 8,2% d'augmentation de salaire sur 3 ans pour les agents de l'État notamment. Autre sujet de conflit, la pause déjeuner payée, remise en cause par le patronat et la régulation du temps de travail des enseignants. Fin février, constatant l'échec des négociations, les syndicats ont déposé un préavis de grève pour le 10 avril et il concernait 10% des fonctionnaires. Réponse des organisations patronales, un lock-out, c'est-à-dire la fermeture de dizaines d'administrations et la mise au chômage technique de 440 000 fonctionnaires, la moitié des salariés du public à partir du 28 avril.
Donc Anne-Françoise, c'est un peu ce qu'on disait à l'instant, on est très loin de ce une sorte de modèle de consensus qu'on a tendance à un peu trop idéaliser. Nous, de notre côté.
Alors oui et non. D'abord, précisons que ce genre de conflit est inhabituel. Le dernier de cette ampleur date de 1998. En 2013, 50 000 enseignants ont également fait grève pendant 25 jours. Un mouvement social interrompu par le vote d'une loi au Parlement, ce qui est extrêmement rare et ce qui inquiète d'ailleurs les syndicats. Car la stratégie cette année semble, de la part du patronat, de pousser le bras de fer au maximum et de forcer les syndicats à revenir à la table des négociations. Car s'il dure, le lock-out va leur coûter très cher. Ils compensent financièrement chacun de leurs adhérents dont le revenu est suspendu pendant toute la durée du conflit. La colère des syndicats est d'autant plus forte que les directives viennent directement du ministère des Finances et donc du gouvernement, ce qui est une entorse sérieuse au modèle danois des négociations collectives, un modèle qui limite l'intervention de l'État. Selon les économistes, le lock-out devrait coûter 1 milliard de couronnes chaque jour au pays, soit environ 130 millions d'euros.
Merci beaucoup Anne-Françoise Hivert pour cet éclairage sur le Danemark. Moi, il y a quelque chose qui me fascine, Jean-Marie Pernaud. D'abord, il y a deux choses. Le recours au chômage technique, c'est quelque chose que on ose se faire dans un pays comme le Danemark, chez nous, ce serait beaucoup plus compliqué. Je vois pas un gouvernement décider, écoutez, on n'est pas d'accord, paf, chômage technique pour tout le monde.
Toutes ces formes assimilées au lock-out sont interdites en droit français, tout simplement, alors qu'elles sont pratiques courantes dans les autres systèmes de relations professionnelles, enfin de systèmes juridiques même, hein, où l'employeur a des droits, y compris en Angleterre, ils peuvent remplacer les grévistes par des intérimaires, hein, ce qui en France est interdit. Non, c'est pour ça qu'on a toute une économie de la grève qui est extrêmement différente, à la fois sur le plan juridique, mais aussi la place qu'elles occupent dans le système de relations sociales.
Absolument, et la compensation aussi, ça me fascine, la compensation des grévistes, ça existe dans d'autres pays aussi, d'avoir, nous on a une caisse de grève, mais finalement cette caisse de grève c'est ridicule par rapport à ce qui pourrait se passer dans un pays comme celui-là.
La caisse de grève en France, les syndicats en organisent parfois sur des conflits longs, mais elle n'est pas institutionnalisée comme elle l'est en Allemagne, où il y a des règles très précises de remboursement à 40 ou 60% des journées de grève, ce qui fait que d'ailleurs les grèves sont des moments où ils recrutent plutôt, lorsqu'ils arrivent à mobiliser au-delà de leur rang, ils font aussi du recrutement là-dessus, parce que ceux qui sont évidemment, c'est une assurance partielle, hein. Enfin il y a toujours une perte de salaire quand même qui peut être importante lorsque la grève dure, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a une diversification, même on parle de l'Allemagne, on parlait des relations industrielles, IG Metall a encore fait la démonstration l'an dernier, il y a 800 000 personnes en grève plusieurs jours, ça fait du bruit et ça fait monter un peu les statistiques, mais il y a aussi d'autres formes de grève dans des services, dans les services d'abord, ce qui est beaucoup plus inhabituel en Allemagne et qui rompt un peu avec les procédures très codifiées qu'on connaissait dans l'industrie. Et ce qu'on voit, l'exemple du Danemark, alors le Danemark c'est un peu codifié, mais on voit que la tension monte et que ce qu'on ne voyait pas il y a 10 ou 15 ans, et on y compris en Autriche d'ailleurs, hein, il y a eu des grèves de conducteurs de train, des choses comme ça, voire une grève générale qui était très inhabituelle.
Et c'est peut-être ça le dénominateur commun, non? Parce que tout ça est souvent lié finalement à une transformation de modèle social, quel que soit le modèle social de base. C'est peut-être ça d'ailleurs ce qui nous lie les uns aux autres
alors,
en Europe.
C'est vrai, mais là les traditions sont extrêmement différentes, mais dans les pays d'Europe du Nord ou même en Autriche ou même en Italie d'ailleurs, lorsqu'il y avait des réformes d'ampleur, elles étaient très longuement négociées avec les syndicats, on prenait son temps, on faisait un constat partagé et on essayait de faire bouger un petit peu les représentations des uns et des autres pour arriver à des compromis. Ça s'est fait jusqu'aux années 90 et depuis on voit que très souvent, même après que des réformes comme ça aient été mises en œuvre de cette manière, les pouvoirs publics prennent la main, déplacent les curseurs. Et là, ça se tend dans un grand nombre de pays qui avaient quand même l'habitude d'une concertation beaucoup plus rapprochée.
Alors, on va faire...
Si vous voulez, pour prendre un exemple, réformer les chemins de fer, il n'y a pas un seul pays en Europe qui ferait comme on vient de faire, enfin comme on est en train de
faire
là. C'est-à-dire, oui, c'est aussi ça le problème de la grève à la française, c'est que bon, dans les autres pays, en général, on prend un certain temps pour faire partager les objectifs et pour éviter la provocation à l'égard des milieux professionnels concernés.
Alors, tiens, allons voir, faisons une autre escale dans un pays qui a fait sa réforme de la SNCF, j'allais dire, sa réforme du rail. Nous partons pour la Grande-Bretagne. Bonsoir Antoine Gignot.
Bonsoir.
Et ce qui nous intéresse chez vous, Antoine, c'est qu'on a tous en tête les énormes manifestations, les énormes grèves à l'époque de Margaret Thatcher. On a un peu l'impression que désormais, chacun reste dans son entreprise. On n'a pas vu d'énormes manifestations comme celle-là depuis des années.
Eh oui, on en est très loin. Pour vous donner un chiffre, au début des années 80, 13 millions de Britanniques faisaient partie d'un syndicat. Eh bien, on en compte 6 millions à peine aujourd'hui. C'est le résultat direct des réformes lancées par le gouvernement Thatcher, avec une loi en 1984 qui a considérablement limité le pouvoir des organisations syndicales. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas, par exemple, de représentants syndicaux dans les conseils d'administration. Le droit de grève est très encadré, on l'a dit. Une assemblée générale ici doit, pour valider un vote, obtenir un taux de participation d'au moins 50%. Il faut que la grève soit votée à 80% des voix. Ben, résultat, les mouvements sociaux ont drastiquement diminué. Vous le disiez tout à l'heure, en France, on compte 132 jours de grève pour 1000 salariés. Et bien ici, on ne dépasse pas les 23 jours pour 1000 salariés.
Et alors, si on vous suit, Antoine, quel poids ont ces syndicats, quelle forme prend la mobilisation désormais?
Elle a pas totalement disparu, la mobilisation. En fait, ce qui ne se passe plus, ce qui n'arrive plus ici, ce sont les grandes vagues de grève comme en France, mais il reste des petits mouvements localisés, branche par branche. La semaine dernière, par exemple, les syndicats des conducteurs des trains des lignes du nord du pays ont appelé à la grève pour protester contre la disparition progressive des contrôleurs. Eh bien, il y a eu des bus de remplacement, des négociations en Écosse et au Pays de Galles, et les grèves sont restées très localisées en Angleterre. En fait, Il y a eu ici un changement profond dans la façon de gérer les syndicats qui se rapproche un peu maintenant des organisations américaines. Ils servent de plateforme de service pour les salariés. C'est eux, par exemple, qui vous aident à obtenir une carte de crédit, des places pour les matchs de foot. Et puis, ils gardent tout de même un poids politique avec des militants qui ont massivement contribué, notamment, à faire élire Jeremy Corbyn à la tête du Parti travailliste.
Jean-Marie Pernaut, merci beaucoup, Antoine Gignot, depuis Londres. Il y a aussi des syndicats, et vous allez nous dire où, qui distribuent les aides d'État aux chômeurs. Donc, ça donne aussi une autre relation aux syndicats, et ce qui fait qu'on est plus syndiqué dans certains pays qu'on est chez nous.
C'est plus que la distribution des aides d'État. C'est la si vous prenez la Suède ou la Belgique, la cotisation chômage est incluse dans la cotisation syndicale. Donc, ça donne un certain type de relation. Ce qu'on appelle le syndicalisme serviciel. En France, on est coupé de ça, puisque les services publics assurent, ou le paritarisme, enfin, des institutions autres. Mais il y a beaucoup de pays où un certain nombre d'aspects de l'économie sociale sont très imbriqués dans la logique syndicale, ce qui, évidemment, donne un autre sens à la syndicalisation. C'est pour ça que les comparaisons internationales n'ont pas grand sens, parce qu'à chaque fois, il y a des dispositifs sociétaux qui entourent ou non l'activité syndicale. Donc, c'est un peu acrobatique de dire « Ah ben là-bas, ils ont 90% de syndiqués. Chez nous, il y en a 12. Circuler, il n'y a rien à voir. »
Mais vous faites bien l'acrobate. Et cela dit, plus il y a de gens qui sont syndiqués, plus les syndicats sont forts et donc moins il y a grève. Bien non, sûr. C'est peut-être une...
C'est logique. Au Danemark, ils ont haut taux de syndicalisation. Et 70%. Quand ils font grève, ça fait du bruit aussi. C'est sûr que la bonne santé syndicale est une garantie, y compris d'une meilleure régulation, parfois préventive, des conflits.
Une dernière question, je ne sais pas si cet exemple existe, si vous l'avez, les victoires sociales sont souvent le résultat d'une grève ou celle d'un vote, ou plutôt celle d'un vote. Est-ce que vous avez en tête une lutte sociale importante en Europe ces derniers temps qui aurait amené un réel changement ou pas? En gros, j'imagine que la question derrière, c'est est-ce que ça change vraiment quelque chose? Est-ce que ça marche ou pas? Mieux que chez nous ou pas?
Oui, il y a ce qui est très visible, ces grands mouvements sociaux, mais il y a aussi des grèves quotidiennes sur les salaires, sur les questions de rémunération. En France, 55% des conflits ont trait aux rémunérations et beaucoup d'entre eux sont victorieux. Donc, évidemment, on met en regard les grands mouvements sociaux qui ne produisent pas de résultats, mais il y a une activité syndicale au jour le jour qui passe ou non par la grève, mais qui quand même conduit parfois sur les conditions de travail, et puis il y a des conflits au Carrefour en ce moment, etc., qui peut-être vont amener à une certaine inflexion, ou au moins des accommodements, des compromis provisoires, comme on dit.
Jean-Marie Pernaut, vous avez fait un exercice d'équilibriste, comme vous dites, à comparer les grèves dans les différents pays européens, mais vous l'avez fait très bien. Merci beaucoup, chercheur à l'Institut de recherche économique et sociale. À très bientôt.
France Inter, Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
La suite d'un jour dans le monde à Mossoul avec Géraldine Allot, ou comment vit cette ville 9 mois après le départ de l'État islamique. Florence Paracoulos nous annonce dans un instant qu'Indiana Jones est une femme. Le cinéma en VO, Corinne Policier, vous avez vu La mort de Staline. On y va, non? On se précipite?
Oh bah oui, si vous aimez Ben Hill, c'est à peu près aussi drôle. En tout cas, il n'y avait que les Anglais pour oser s'amuser de l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de la Russie.
Allez, le monde à l'envers de Jean-Marc Faux. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
On va parler football, élections qui font parfois un drôle de ménage en Égypte.
Deux plébiscites égyptiens, un vrai, un faux. Le faux, la réélection de Sissi. Le vrai, la star du foot, Mohamed Salah.
Allez, le tour du monde n'est pas fini. Il passe par New York avec Mélanie. What have they done to my song, ma?
Look what they done to my song, ma. Look what they done to my song. Well, it's the only thing that I could do half right, and it's turning out all wrong, ma. Look what they done to my song. Look what they done to my brain, ma. Look what they done to my brain. Well, they picked it like a chicken bone, and I think I'm half insane, ma. Look what they done to my soul. I wish I could find a good book to live in. Wish I could find a good book. Well, if I could find a real good book, I'd never have to come out and look at what they've done to my soul. La 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 la. La, 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 la.
maybe it'll all be alright, Mom. Maybe it'll all be okay. Well, if the people are buying tears, I'll be rich someday, Mom. Look what they've done to my son. Ils ont changé ma chanson. Ils ont changé ma chanson. C'est la seule chose que je peux faire et ce n'est pas bon. Ils ont changé ma chanson.
Cette chanson a quasiment mon âge et je trouve qu'elle tient encore très bien la route. Allez, Florence Paracuello, c'est là.
France Inter.
Good evening and welcome.
Je remercie le capillon.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Florence, une question pour commencer. L'affaire Weinstein a eu des conséquences dans le monde entier, mais y a-t-il eu un mouvement MeToo au Japon ?
Non, Fabienne, absolument pas. L'affaire a été traitée dans les médias, mais sans plus. Très peu de témoignages de japonaises victimes de viol ou de harcèlement ont suivi. Le viol, c'est un des tabous du Japon. À peine 3% des victimes portent plainte. Et quand elles le font, il ne se passe pas grand-chose. Un tiers des procédures ouvertes ont abouti au tribunal l'an dernier. Shiori Ito, par exemple, a eu le courage d'aller parler à la police. Cette journaliste de 28 ans a raconté comment un homme de télé, au cours d'un dîner professionnel, l'avait drogué puis violé. L'homme a simplement nié, il n'a pas été inquiété. En revanche, ce qu'elle a dû subir, elle, pendant l'enquête, voilà, elle l'a raconté à l'AFP. La pire chose que j'ai vécue pendant l'enquête, ça a été la reconstitution. J'ai dû mimer la scène avec une poupée grandeur nature. Ça a été pour moi comme un deuxième viol. J'ai dû m'allonger par terre et les policiers ont placé la poupée sur moi. Ils la faisaient bouger. Ils me demandaient, c'était plutôt comme ça ou comme ça ? Et ils prenaient des photos. On en parlait hier, Fabienne, on parlait de l'accueil parfois maladroit des femmes victimes de violences en France, dans les commissariats. Que dire de la procédure japonaise ? Et l'histoire n'est pas finie. Shiori Ito a raconté son histoire, justement, son calvaire dans un livre l'an dernier. Voilà ce qu'elle a récolté, un torrent d'insultes sur Internet.
Allez, de cette situation totalement figée, tragique au Japon, on passe aux États-Unis, c'est plus léger. Là, le changement est arrivé.
Et pour prouver que les temps changent, Spielberg, qui est en train de tourner le dernier Indiana Jones, se projette dans l'après Harrison Ford à l'affiche de ce cinquième épisode. C'est toujours lui, mais ce sera vraisemblablement son dernier, parce qu'il n'a plus tout à fait l'âge d'être un héros virevoltant Harrison
le
Ford.
Fouet.
Il faut quand même le dire. Alors, qui pour incarner le Dr. Jones et manier le fameux fouet? Une femme, répond Spielberg au Sun qui lui a posé la question. Il est temps que le personnage change et on pourrait l'appeler Joan. Donc préparez-vous. Dans les années 2020, les aventuriers burinés seront des aventurières. Et qui sait, Indiana Jones fera peut-être des blagues sur les hommes à l'image de ces Indiana Jones qu'on a tous entendu faire des grosses blagues sur les femmes, surtout dans les trois premiers.
C'est vrai. Voilà. Allez, vous nous emmenez au Canada, Florence, maintenant, où un homme vient d'être autorisé à fréquenter à nouveau un hôtel dont il était banni depuis 17 temps, pauvrette.
Cet homme n'est ni une rockstar qui aurait ravagé sa chambre, ni un mauvais payeur, non. C'est juste un type en voyage d'affaires à l'époque, on est en 2001, logé au Fairmont Empress, un bel hôtel du port de Victoria en Colombie-Britannique. Comme il a des copains dans le coin, il leur a ramené des pepperonis de sa ville d'Halifax, les fameux Pepperoni Brothers, réputés dans tout le pays, paraît-il. Le pepperoni, pour mémoire, Fabienne, c'est quoi ?
C'est du jambon ?
Oui, c'est une sorte de salami épicé. Comme il n'y a pas de frigo dans cette chambre d'hôtel, il pose les 10 pépéronis sur le bureau devant la fenêtre ouverte, le temps d'aller se balader pour que sa charcuterie ne faisante pas. Retour quelques heures plus tard.
Je vois la scène.
Il ouvre la porte de sa chambre et voilà ce qui se passe. Les oiseaux d'Hitchcock, Fabienne, dans sa chambre, 40 goélands en pleine orgie de pepperoni. Il y en a partout, la chambre est dans un état indescriptible. Plus de rideaux, les lampes cassées, le guano sur la moquette, les pepperoni sur les murs. Notre homme met toute son énergie à faire sortir les oiseaux. Et puis il appelle la réception. Allô, je crois qu'il y a un petit problème dans ma chambre.
Allô, Houston, l'hôtel.
Je me souviendrai toujours, dit-il, du regard de la femme de ménage à qui j'ai ouvert la porte. À ce moment-là, on lui donne une autre chambre, sans le blâmer. Mais son employeur recevra très vite une lettre prévenant que c'est plus la peine de revenir. Le client au pepperoni est banni à vie jusqu'à la semaine dernière. C'est Radio-Canada qui raconte. Cet homme qui a toujours voulu se racheter était dans le coin. Il est passé à la réception de l'hôtel pour présenter ses excuses et offrir une livre de pepperoni. Et ça a marché. Il a été pardonné, il va pouvoir revenir au Fairmont Empress.
Voilà, il n'a pas payé sa chambre quand même, il a payé l'autre, d'accord, mais on ne lui a pas fait payer les dégâts.
Ah bah ça, je ne sais pas, Fabienne,
n'est
pas la note.
Attendez, il manque des choses dans votre histoire. Revenez demain pour nous faire la suite. Merci Florence.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Pékin.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
Depuis plusieurs jours, vous l'avez entendu sur Inter, nous sommes en Irak, nous sommes à Mossoul. Mossoul reprise à l'État islamique par l'armée irakienne en juillet dernier avec l'aide de la coalition internationale et au prix de milliers de morts. 9 mois après, qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Est-ce qu'elle repart? Avec qui? Vers quoi? Bonsoir Géraldine Allo.
Bonsoir.
Géraldine, c'est vous qui nous faites vivre cette renaissance, ou début de renaissance en tout cas, de la ville de Mossoul depuis plusieurs jours. La vieille ville où se sont concentrés les derniers combats, c'est encore un champ de ruines. Et les quelques 430 000 habitants déplacés par les combats attendent toujours de pouvoir rentrer chez eux. Vous nous emmenez à Salamia, c'est un camp à 30 km au sud de Mossoul, où on n'a qu'une envie, c'est sortir.
C'est l'heure du grand départ pour Ibrahim Khalil Sleiman. Ce petit commerçant de Bahaj a décidé de quitter le camp de Salamia, où il vit depuis 10 mois avec sa femme et ses enfants. Il récupère le laissez-passer nécessaire auprès du personnel de l'ONG ACTED.
Avec cette lettre, ils vont franchir tous les checkpoints jusqu'à Bahaj.
Ibrahim Khalil Sleiman retourne chez lui et il se dit sûr de son choix.
Là-bas, il n'y a ni eau ni électricité. Alors ce n'est pas facile pour nous de rentrer. Moi, j'ai un petit commerce à Bahaj. Il a été en partie détruit par les bombardements. Aujourd'hui, je vais le reconstruire et retrouver ainsi un travail. On nous a dit que l'État islamique avait été complètement chassé de Bahaj. Ce sont des milices chiites qui contrôlent la ville maintenant. Je n'ai rien contre elle, mais je préfère retourner chez moi, pour être sûr que personne ne me prenne mon commerce. C'est à nous, les habitants, de reconstruire la ville.
La camionnette d'Ibrahim est pleine à craquer. Un matelas et des meubles hâtivement attachés sur le toit, pas sûr que cela tienne pendant les 6 heures de route jusqu'à Bahaj. Au moment de dire au revoir à ses camarades du camp, le commerçant se retourne une dernière fois.
Ce n'est pas une vie de rester dans des camps. Il est temps pour nous de rentrer.
Combien sont-ils à pouvoir ou à vouloir rentrer chez eux? Très peu, estime Sébastien Puech, le responsable d'ACTED dans la région de Mossoul.
En moyenne, on a entre 2 et 5 départs par jour, donc c'est très peu en rapport de la population totale du camp qui est de 31 000 personnes.
Pourquoi il y a aussi peu de retours?
Alors, il y a peu de retours parce que ces personnes sont majoritairement originaires de l'ouest de Mossoul, dans les villages de Bahaj, Sinjar et Tel Afar. Et dans ces villages, les services n'ont toujours pas repris, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, les hôpitaux, les écoles n'ont pas rouvert.
Est-ce que vous vous attendiez à ce que les déplacés restent aussi longtemps dans les camps?
Alors, on ne s'attendait pas à ce qu'ils restent aussi longtemps, ça fait bientôt 10 mois qu'ils sont ici. Quand on a ouvert les camps, c'était plus des camps d'urgence. Et les semaines, les mois ont passé, ils sont toujours là. Et on n'a pas pour l'instant de prévision pour des départs à court terme de l'ensemble des personnes dans le camp.
Donc comment vous faites? Il faut gérer du coup le long terme.
Effectivement, ça change totalement la physionomie, la dynamique, nous, de l'assistance qu'on propose dans le camp. C'est-à-dire que maintenant, on va essayer de réfléchir en termes de dignité, en termes d'autonomie, de ce qu'on peut proposer pour pas se limiter seulement à une aide d'urgence, essayer de leur permettre de retrouver le champ des possibles qu'ils connaissaient avant la crise.
Et ce champ des possibles, Géraldine, ça passe par une rescolarisation des enfants.
Oui, car entre 2014 et 2017, quand l'organisation État islamique gérait la région de Mossoul, les enfants ont eu une scolarité en pointillé et les programmes scolaires étaient dictés par l'idéologie mortifère des djihadistes. Aujourd'hui, dans le camp de Salamia, des instituteurs reprennent les fondamentaux. Ils font cours dans de grands préfabriqués à plus de 11 500 élèves.
Today, we will have story time. What is the meaning of the story time?
Nawaf Sali est professeur d'anglais.
C'est important parce que sous Daesh, les élèves sont restés 3 ans sans recevoir de vrais enseignements. Et ils ont tout oublié, l'anglais notamment. Je suis là pour les aider. Daesh a détruit nos vies. Ils voulaient qu'on enseigne leur idéologie. Par exemple, comment concevoir une voiture piégée. Nous, les professeurs, on n'aimait pas du tout ça. On n'acceptait pas ça. Alors, on restait chez nous. J'ai été sans emploi pendant 3 ans.
Dans les classes, les élèves sont ultra attentifs, ultra motivés. Ils s'entassent à 15 sur un banc.
On essaie de rattraper le retard accumulé pendant ces 3 années sans école. L'école m'a beaucoup manqué.
Le soleil se couche sur la plaine de Mossoul et dans le camp de Salamiya, c'est l'heure du match de foot pour les plus jeunes et les plus vaillants. Les plus âgés se regroupent sous une grande tente comme ces leaders de tribus sunnites originaires de la région de Baaj. Les leaders tribaux disent qu'ils ne sont pas prêts de rentrer chez eux. En tant que sunnites, ils ont l'impression d'être assimilés à des sympathisants de l'organisation État islamique. Ils ont peur d'éventuelles représailles de la part des chiites ou des yézidis une fois rentrés à Baaj. C'est l'avis de Mohamed Khalaf.
L'armée irakienne nous a libérés de Daesh, elle a assuré notre sécurité au moment de la libération, mais depuis, on se sent un peu abandonné. À part les ONG, personne ne prête attention à nous. Nous n'avons pas de travail et aucune source de revenus.
Ali Hassan, un autre leader tribal, veut croire qu'une réconciliation de tous les Irakiens est possible.
On est tous Irakiens. On n'est pas arabes, kurdes, chrétiens, yézidis, sunnites ou chiites. On est tous Irakiens. Il serait temps que le gouvernement arrête d'instrumentaliser nos différences.
En attendant une lointaine réconciliation, tous les résidents du camp saluent leur liberté retrouvée. Liberté d'écouter de la musique et de lire autre chose que des textes religieux. Liberté de se vêtir comme ils le souhaitent. Pour les femmes, c'est un immense soulagement. Maha, la trentaine, est originaire de Mossoul.
C'est complètement différent. Sous Daesh, on devait porter des gants, une longue robe noire et avoir le visage entièrement recouvert. Aujourd'hui, on fait ce qu'on veut, c'est la liberté.
Alors même si sa maison dans la vieille ville de Mossoul n'est plus qu'un tas de gravats, même si elle ne sait absolument pas si elle pourra un jour rentrer chez elle, Maha dit qu'elle a le cœur plus léger que l'an dernier quand les djihadistes occupaient Mossoul et faisaient régner la terreur dans la ville.
Le reportage est signé Géraldine Allot pour Un jour dans le monde sur France Inter. 3, 2,
1... France Inter.
Movies are made of light.
Le 18-20.
Appelons ensemble votre jury.
And the winner is...
Un jour dans le monde.
Action!
Cinéma en VO comme tous les mercredis, Corinne Pellissier. Corinne, vous avez vu cette comédie britannique piquante qui a donné un urticaire terrible aux Russes d'ailleurs, puisque le film a été interdit de projection. Ça s'appelle La mort de Staline. C'est signé Armando Iannucci. C'est l'homme de la série VIP, pour que les gens puissent situer un petit peu. Celui qui a fait In the Loop aussi. Bonne annonce. Et on se parle après.
He's irreplaceable.
I propose we call a doctor.
All the best doctors are dead.
I'm exhausted. I can't remember who's alive and who isn't.
We need to start putting together a plan.
How can you run and plot at the same time?
I have no idea what is
is going on?
I want to make a speech at my father's funeral.
No problem.
Technically, yes, but practically.
When I said no problem, what I meant was no problem.
Ce que j'adore, Corinne, c'est que vous rigolez en écoutant la bande-annonce du film que vous
avez
vu.
Je revois les scènes, exactement.
Alors, il s'appelle Iannucci, par ailleurs, m'avez-vous fait remarquer, vous avez bien raison. Donc, on parle des dernières heures de la vie de Staline, revue, pas du tout corrigée. Preuve que, pour le coup, on peut rire de tout, mais pas avec les Russes, en gros, quoi. Bah,
c'est-à-dire qu'il y a des choses avec lesquelles on ne rigole pas. Joseph Staline qui succombe à une attaque cérébrale dans sa datcha, c'est dans les livres. Nous sommes en 53, nous pouvons en parler aujourd'hui avec du recul. En revanche, se moquer de lui dans un film et insulter d'une certaine manière le passé soviétique, non seulement c'est très mal, mais en plus ça peut nuire aux élections. Alors Vladimir Poutine depuis a été réélu haut la main à la tête du pays, mais les autorités russes n'ont pas à digérer exactement l'une des scènes du film, en tout cas l'une des plus marquantes, celle qui montre l'homme fort du pays allongé, à demi inconscient dans une flaque d'urine. C'est une scène qui dit tout, hein, parce qu'elle s'est réellement produite. Elle dit la peur panique qui régnait à l'époque au sein de la population et surtout dans l'entourage de Staline, les gardes qui ont préféré le laisser pour mort toute une nuit parce qu'ils n'osaient pas aller taper à sa porte et le déranger dans ses appartements. C'est la grande époque aussi des listes d'indésirables, les tortures, les exécutions, le goulag. Les membres d'ailleurs du comité central qui ont été appelés au chevet de Staline ne savaient pas très bien non plus comment s'y prendre également au départ. En tout cas, tout le monde apprend très vite. Khrouchtchev, Beria, Molotov, ils sont tous là. Les petits coups bas, les trahisons. Tous les éléments d'un bon film étaient là.
Alors, et quand Armando Iannucci a été contacté pour adapter l'histoire, au départ c'est une BD en fait, il faut le savoir, une BD de Thierry Robin et de Fabien Nuri, et il ne s'est pas fait prier.
Exactement.
He and, you know, people like Berlusconi and Erdogan in Turkey.
Ce sont des gens comme lui, comme Berlusconi ou Erdogan en Turquie, qui m'ont donné envie de faire un film sur un personnage arrivé au pouvoir démocratiquement et qui change les règles en cours de route pour demeurer en place. Je trouve qu'en matière de politique, il y a toujours une part comique. Des gens comme ça qui ont l'air de savoir précisément où ils vont, et quand on les regarde de plus près, ils sont en fait dans l'improvisation totale. Ils sont humains comme nous, et le plus effrayant, c'est qu'à la Maison-Blanche, ça se passe comme ça. Au Kremlin aussi, et même à l'Élysée. La réalité est tellement plus forte que la fiction. Je ne vois pas l'intérêt de caricaturer ces gens davantage. Ce serait même impossible. Comment voulez-vous être plus drôle que Trump? Vous ne pouvez pas. Il fait déjà le show, tout seul, et il adore ça. C'est pour cette raison qu'il me paraissait plus intéressant ici de travailler avec le recul d'événements passés.
Which may be why, actually, I found something from the past worked better than something from the present.
Voilà, les événements passés et l'idée de sublimer la vie politique, toute l'ironie qu'il peut y avoir derrière la vie politique.
Bah, en fait, il l'a montré à plusieurs reprises, hein, à travers la série VIP ou le film In the Loop. Ce qu'il a voulu mettre en avant cette fois-ci, c'est clairement la lutte pour le pouvoir, comment se l'approprier et comment surtout le garder. Comme on le disait, ce sont vraiment, dans le film, tous les éléments d'une formidable histoire qui partent d'événements qui sont vrais, en fait.
En acceptant de faire ce film, je m'étais fixé deux objectifs. Je voulais que ce soit une comédie. Il fallait que les gens rient, parce que tout ce qui s'est passé est dingue. Mais je voulais aussi que le public retrouve l'angoisse de cette époque. Il fallait qu'ils ressentent la même chose. Alors je ne dis pas attention qu'il s'agit d'un documentaire, que tout dans le film est vrai à 100%. Je dis juste que vous seriez étonné de découvrir la véracité de certains de ces événements les plus improbables. Par exemple, Staline effrayait ses gardes à tel point que lorsqu'il a eu son attaque, ils l'ont laissé toute une nuit gisant au sol parce qu'il n'osait pas ouvrir la porte. Il y a aussi le fils de Staline, Vassili, que l'on voit dans le film. Lui a perdu un jour toute l'équipe nationale de hockey dans un accident d'avion. Et il l'a caché en faisant jouer des amis et des amis d'amis à leur place. Et évidemment, ils ont été nuls. Chacune de ces anecdotes ferait à elle seule une formidable comédie.
Il a tellement raison, l'histoire des hockeyeurs c'est quand même l'histoire la plus incroyable, ça s'appelle La mort de Staline, c'est en salle aujourd'hui,
exactement,
mercredi.
Aujourd'hui, une comédie drôle comme les Anglais savent les faire.
Et on rappelle quand même que la BD dont le film s'inspire chez Dargaud, signée Thierry Robin et Fabien Nuri, elle existe et on peut l'acheter aussi. Voilà,
exactement,
merci.
La mort de Staline.
Merci Corinne.
Le 18-20, Fabienne Saintès, sur France Inter.
Et le monde à l'envers de Jean-Marc Four. Jean-Marc, un très grand nombre d'Égyptiens, pour un très grand nombre d'Égyptiens, le grand événement de la semaine, c'était pas du tout la réélection sans surprise de Sissi. C'est ce soir le quart de finale de la Ligue des Champions. C'est du foot, Liverpool-Manchester City. Et dans votre monde à l'envers, ce soir, l'homme vraiment plébiscité en Égypte, vous nous dites que c'est le footballeur Mohamed Salah, l'attaquant de Liverpool.
Ça paraît anecdotique comme ça. Ça ne l'est pas. Parce que ce soir, une grande partie de l'Égypte va s'arrêter, bien régler sa parabole et regarder le match. Si vous êtes amateur de foot, vous le savez déjà, Mohamed Salah est la star montante du ballon rond. 25 ans, meilleur buteur du championnat anglais. Et beaucoup voient carrément en lui le successeur de Messi et Ronaldo. En Égypte, la passion du foot est dévorante et Salah est déjà une icône, en particulier depuis son pénalty en octobre dernier qui a qualifié l'équipe nationale pour la prochaine Coupe du Monde pour la première fois depuis 28 ans. Voilà, écoutez ce moment, le pays a basculé dans la liesse indescriptible.
C'est avant qu'il tire ça.
C'est ça, il va tirer.
Il va tirer. Il a tiré.
Voilà. Mohamed Salah, Allah Akbar, etc. Le commentateur pleure en direct. Enfin, c'est cette nuit-là, après le but, le Caire n'a pas dormi. Mais le symbole Salah va plus loin. Regardez ce document, je vous l'ai apporté ici en studio. Vous le retrouverez d'ailleurs sur franceinter.fr. C'est un bulletin de vote de la récente présidentielle. Et regardez, les noms des deux candidats sont tous les deux cochés, ce qui rend le bulletin évidemment invalide. Et en dessous, l'électeur a écrit quoi ? Mo Salah, le nom du footballeur. Alors, c'est impossible de savoir précisément combien d'électeurs ont fait la même chose la semaine dernière, mais certains médias égyptiens parlent de dizaines, voire de centaines de milliers de votes nuls avec le nom de Salah. Alors, c'est qui Salah ? Il se mêle pas vraiment de politique, mais son histoire parle au peuple égyptien, pardon, parce qu'il est originaire d'un petit village du delta du Nil, qu'il n'a jamais joué dans les grands clubs du Caire et qu'il est réputé croyant et même pieux. Son seul acte politique, pas quand même tout à fait anecdotique, c'est d'avoir participé à une campagne de l'ONU pour prévenir les violences faites aux femmes.
Alors, c'est le plébiscite officieux, on va dire, Salah, avec à côté, coïncidence de l'actualité, le plébiscite donc officiel.
Alors, soyons précis, tant qu'à basculer dans les chiffres à la soviétique, puisqu'on était en Union soviétique à l'instant avec Corinne Pellissier, autant se montrer précis. Le président Abdel Fattah el-Sissi a donc été réélu avec 97,08% des voix. Résultat rendu public avant-hier, grande unanimité. Sauf qu'en fait, non. Ce n'est pas un plébiscite, et voici pourquoi. D'abord, la participation ne s'est élevée qu'à 41%. C'est peu. Donc en réalité, moins de 40% des inscrits, c'est mathématique, ont voté Sissi. Et dans ce pays où les deux tiers des 95 millions d'habitants ont moins de 30 ans, tous les témoignages indiquent que, parmi les jeunes, l'abstention a dépassé les 80%. Ensuite, toutes les ONG encore présentes en Égypte évoquent un scrutin truqué avec repas gratuits ou carrément pot de vin pour inciter au vote. Ajoutons, vous le savez, que tous les opposants avaient été dissuadés de se présenter, à l'exception d'un seul, donc Moussa Mostafa Moussa, qui se dit lui-même soutien de Sissi. Et rappelons enfin que depuis 4 ans, la méthode Sissi, c'est arrestation par dizaines de milliers, procès sommaire, presse muselée, recours à la torture, désinvestissement de l'État, j'en passe, flambée des prix, n'en jetez plus.
Alors, sauf que pour l'Occident, Jean-Marc, Sissi, c'est plus important que cela.
C'est le retour de la vieille habitude, le soutien au dictateur au motif qu'il est un gage de stabilité et qu'il nous protège contre le terrorisme. Vive Poutine, vive Erdogan, vive Xi Jinping, le pouvoir autocratique plutôt que la société civile, Sissi plutôt que Salah. Dès hier, la France a adressé, je cite, ses vœux de plein succès au président Sissi. Alors c'est vrai, l'Égypte est un marché, un gros, la France est devenue le premier fournisseur d'armes du pays. Mais Sissi a un rempart contre l'islamisme. On a le droit d'en douter. Pour l'instant, il échoue à éradiquer les sanctuaires extrémistes du Sinaï. Il pousse les islamistes dans la clandestinité. Il crée les conditions d'une explosion sociale. Alors vous me direz, c'est justement à ça que sert le foot, du pain et des jeux, comme on disait dans la Rome antique, pour calmer le peuple. Mais ça ne marche pas toujours. La cocotte minute égyptienne finira sans doute par se réveiller à un moment donné, et pas seulement pour fêter un but.
Jean-Marc Four et Le Monde à l'envers, dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Dans un instant, c'est Sébastien Paour.